Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Il y a des victoires que vous n'aurez jamais, et j'insiste sur le jamais, sans alliance. Daniel 11, 32, voici ce que dit la version 8 secondes. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La version Martin du même texte dit ceci. Et il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un type d'exploit que vous ne pourrez pas vivre, faire, expérimenter dans la vie si vous n'êtes pas capable de rester fidèle dans l'alliance. Se fortifier ne suffit pas. S'encourager ne suffit pas. Il faut à un moment être capable d'établir des alliances de vie, des alliances durables, de bonnes alliances. Je veux, pour ceux qui prennent des notes, indiquer que les personnes qui sont facilement influençables, manipulables par des flatteries, ce qu'on arrive à séduire et à faire pécher, sont ceux qui ont trahi leurs alliances, ceux qui se comportent avec méchanceté dans l'alliance. Vous devez comprendre donc que le non-respect de l'alliance ouvre la porte à la séduction. Le non-respect de l'alliance ouvre la porte au péché. Le non-respect de l'alliance ouvre la porte aux actions contre sa propre destinée. Le mot alliance dans le texte de Daniel est le mot hébreu berit, B-E-R-I-Y-T-H. Cette alliance se définit comme étant l'accord entre des personnes. L'action de s'allier. Un autre mot qu'on utilise, c'est le mot pacte d'intérêt commun, établi par traité entre deux personnes, ou un pacte scellé par le sang de Christ. Donc, lorsqu'on parle d'alliance, les synonymes du mot alliance sont les mots pacte, engagement, traité. Je reprends, parce que je vois des gens qui notent. Les autres, vous me regardez juste. J'aime beaucoup que vous me regardiez. Mais me regarder ne change pas la vie. Je reprends. Pacte, traité, accord, ligue. Tous ces mots, l'engagement, tous ces mots sont des synonymes du mot alliance. Ecclésiaste 4, 10 dit « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Écoutez-moi bien. Quand vous êtes debout, vous pouvez penser que vous n'avez besoin de personne. Mais quand vous êtes par terre et que vous n'avez pas la force de vous relever, vous aurez besoin de quelqu'un qui est debout et qui peut vous tendre la main pour vous aider à vous relever. La nécessité de l'alliance ou du fait d'avoir quelqu'un sur qui compter ne se révèle pas quand on est debout, mais se révèle quand on est par terre. Maintenant, malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas prévoyants ou prévenants. Tu dois bâtir des alliances en prévision de ce qui arrive, pas juste pour là où tu es. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ça veut dire que tu dois, dans ta façon de vivre, ne pas avoir le sentiment que toi, tu ne peux jamais tomber. Parce qu'aujourd'hui, tu es debout. Tu dois te dire, si je tombe, sur qui pourrais-je compter? Si je suis faible, qui va me prêter sa force? C'est l'évêque Gélil qui disait pendant Shift que les vaillants hommes de David sont les hommes auxquels il a donné à manger. Il faut apprendre à nourrir les gens, pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Il faut apprendre à bâtir des relations où aujourd'hui tu peux être celui qui investit. Mais l'investissement d'aujourd'hui te permettra d'avoir une récolte demain. Regarde quelqu'un à côté de toi, demande-lui avec qui es-tu en alliance. Si ton voisin ne te parle pas, c'est que c'est le mauvais voisin. Cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui avec qui es-tu en alliance. J'ai écrit dans mes notes que si nous voulons vivre une vie à succès sur la terre des vivants, nous ne pouvons pas être seuls. Si tu veux réussir cette vie-ci, tu ne peux pas la réussir tout seul. Il y a selon moi 5 types de relations qu'il faut nécessairement avoir dans la vie si vous voulez connaître un succès total. Je crois que sans ces relations, quels que soient nos succès, ils ne seront pas complets. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous intéresse? Je dis, il y a selon moi 5 types de relations qu'il faut avoir dans la vie si vous voulez connaître un succès total. 5 types. Je ne développerai pas les relations, je vous donne juste les catégories et ensuite je vais avancer pour le message que Dieu a mis dans mon cœur. Premièrement, et je parle de ces relations en termes de choix. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Quand je parle de ces relations, je ne parle pas de relations qu'on vous impose. Parce que je crois qu'il faut choisir ces relations. Et les relations que je m'apprête à citer sont des relations que vous devez volontairement choisir d'avoir dans la vie. Est-ce que ça va? Okay. Voici ce que la Bible dit et je pense que c'est l'un des pouvoirs majeurs que Dieu a donné à l'homme. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Si tu meurs, c'est un choix. Si tu vis, c'est un choix. Si Dieu te donne le pouvoir de choisir la vie ou la mort, qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne t'a pas donné le pouvoir de choisir tes relations? Si Dieu te donne le choix entre la vie et la mort, pourquoi est-ce qu'il t'imposerait un homme? 5 types de relations. La première, c'est le choix de sa divinité, le choix de son Dieu. Tu dois tôt ou tard répondre à la question suivante, qui est ton Dieu? Et ton Dieu ne peut pas être... Ton Dieu ne peut pas être comme toi. Les athées choisissent de dire il n'y a pas de Dieu. Et quand ils font ça, c'est qu'ils choisissent d'être leur propre Dieu. Mais si ton Dieu et toi, vous êtes au même niveau, c'est que ton Dieu a tes faiblesses et tes forces. Tu dois avoir un Dieu qui est plus fort que toi. Tu dois choisir un Dieu qui est plus grand que toi. Tu dois choisir un Dieu. Et je te propose de choisir un Dieu qui est fidèle même quand tu es infidèle. Oh Dieu vivant d'Israël. Un Dieu qui ne t'aime pas parce que tu l'aimes. Un Dieu qui t'aime le premier. Un Dieu qui considère que même si toi tu changes, lui il ne changera pas. Tu peux t'appuyer sur son immuabilité. Le fait qu'en réalité il soit constant. Est-ce que vous savez que Dieu est fidèle, même quand nous sommes infidèles? Que Dieu est bon, même pour les méchants? Oh my God, I give you praise. Dieu est bon, même pour les méchants. Dieu fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants. y a des choses que Dieu donne, quel que soit le cœur qu'on a. Je te propose donc de choisir un Dieu qui est au-dessus de toi. Et là, j'ouvre une parenthèse en disant, ton Dieu, si tu veux l'évaluer, le tester, choisis un Dieu qui a un CV. Choisis un Dieu qui a une histoire. Pas juste avec toi, mais avec quelqu'un avant toi qui peut rendre témoignage de comment est-ce que ce Dieu l'a traité. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, celui que craint Abraham, tu m'aurais renvoyé à vide. Je plains les gens qui n'ont pas de père. La deuxième catégorie. Premièrement, le choix de sa divinité. Deuxièmement, le choix de ses autorités. Dans cette catégorie, je mets la paternité spirituelle, le choix de son pasteur, le choix de son évêque, le choix de ses autorités. Qui est au-dessus de toi? Qui est capable, suivez-moi bien, ton autorité, celui à qui tu te soumets, celui sous lequel, celui sous l'ombre duquel tu te mets. Là, je ne parle plus d'une divinité, je parle d'un homme. Tu dois choisir quelqu'un dans la vie à qui tu peux te soumettre. Quelqu'un qui est capable de te dire « lève-toi » quand tu veux t'asseoir. Quelqu'un qui est capable de te dire « assieds-toi » quand tu veux te lever. Et tu obéis malgré tes émotions. Vous êtes prêts? Quelqu'un dont la voix est plus forte que la voix de tes émotions. Quelqu'un dont la voix est plus forte que la voix de ta colère. Quelqu'un dont la voix est plus forte que la voix de ta raison. Si tu n'as personne qui est capable de lever le couteau contre toi, et tu regardes le couteau d'Abraham en disant « si papa pense que c'est bon de me tuer, alors tue-moi », c'est que tu n'as personne qui est capable de te donner un héritage. Si tu n'as personne qui est capable de te mettre sur la croix, c'est que tu n'as personne qui est capable de te ressusciter de la tombe. Tu dois avoir quelqu'un qui est capable de t'abaisser afin d'avoir quelqu'un qui est capable de t'élever. Le problème que vous avez, c'est que vous choisissez d'établir des alliances caduques avec les hommes que vous voyez, en faisant prévaloir une alliance soi-disant durable avec un Dieu que vous ne voyez pas. Il faut avoir quelqu'un dans la vie qui est capable de te bénir. Qui est capable de te bénir. Troisième catégorie, c'est la catégorie de ce que j'appelle les vis-à-vis. Le choix de ses vis-à-vis, le choix de ses amis, le choix de ses collègues, le choix de ses frères. Ces gens ne sont pas au-dessus de toi. Ils ne sont pas en dessous de toi. Ce sont tes compagnons d'œuvre. Ce sont les gens qui, parfois, ont les mêmes faiblesses que toi, ont les mêmes difficultés que toi, vivent la même chose que toi, mais qui sont capables de t'aiguiser. Le fer aiguise le fer. Qui sont capables de te booster, de te pousser. Est-ce que je vous parle ce matin? Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu entends ce que l'évêque dit? J'aurais besoin du temps, révérend, pour être sûr que je ne déborde pas. Parce que... How much time do I have left? 35? Ok, I'm going. Troisième catégorie, tes vis-à-vis. Quatrième catégorie, tes successeurs. Le choix de ses successeurs, le choix de son successeur, le choix de ses fils, de ses filles. Ceux-là, ce sont les gens que tu tires vers le haut. Ce sont les gens dans lesquels tu investis parce que c'est eux la récolte. Tu travailles pas juste à bâtir un héritage, mais tu dois préparer les héritiers pour l'héritage que tu bâtis. Est-ce que vous m'entendez, même? Parfois, je vous regarde et j'ai l'impression que vous ne me suivez pas. À part ceux qui sont devant, mais derrière, j'ai l'impression que... Vous savez, je l'ai prêché ici. Jacob reçoit une tunique de son père. Joseph reçoit une tunique de Jacob, son père. Une tunique bigarrée, plusieurs couleurs. Ses grands frères vont le déposséder de la tunique de son père. Ils vont tuer un animal. Ils vont mettre le sang de l'animal sur la tunique. Un homme de Dieu a dit, il y a quelques années, il me dit, ils ont ma tunique, mais ce n'est pas mon sang. Comme pour indiquer que le fait d'avoir le vêtement de quelqu'un ne vous donne pas la preuve que ce que vous voyez sur le vêtement, c'est son sang. Je vais ouvrir la parenthèse. C'est possible d'être la femme de Potiphar avec le vêtement de Joseph, mais de mentir sur les faits. Il y a des fumées sans feu. Il y a des fumées sans feu. Bref, cet homme disait donc que c'est ma tunique, mais ce n'est pas mon sang. Et là, le ciel s'ouvrit. Et j'entendis Dieu dire, il ne faut pas qu'un animal hérite de ta tunique. C'est possible que ce que tu as reçu de ton père, qui devrait normalement être légué à ton fils, se retrouve affecté par le sang d'un animal. Parce qu'au moment où tu dois transmettre l'héritage, soit tu meurs prématurément, soit tu n'as pas préparé la relève. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de succès sans successeur. Si tu penses que réussir, c'est juste te marier, avoir des enfants, bâtir une entreprise, le succès ne s'évalue pas par ta vie. Le succès s'évalue après ta vie. Tu as réussi parce que ce que tu as bâti ne s'arrête pas, ne meurt pas avec toi. Tu t'es tué toute ta vie pour laisser un héritage à tes enfants et des animaux viennent spolier ta femme et tes enfants. Regarde ton voisin, lui, ce ne sera pas ta portion. Dis à ton voisin, aucun animal n'héritera de ta tunique. Je lève ma main droite et je prie dans cette maison alors que je me tiens sous l'autel du patriarche. Je dis, aucun animal ne succédera à ce que tu as fait. Je dis, aucun animal n'héritera de ce que tu as bâti. Je dis, le sang d'un animal ne sera pas mêlé à ta tunique. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Asseyez-vous. Il y a une femme de ce côté à qui Dieu dit, tes enfants ne m'en diront pas. Il y a une femme de ce côté à qui Dieu dit, tes enfants ne vivront pas ce que tu as vécu. Il y a une femme de ce côté à qui Dieu dit, tes enfants monteront les montagnes. Il y a une femme de ce côté à qui Dieu dit, tu ne t'es pas passé en vain. Tu n'as pas pleuré en vain. Tu n'as pas gêné en vain. Tu n'as pas donné en vain. Que ceux qui reçoivent cette parole poussent un cri de victoire dans cette maison. Abba Seba, ton héritage ne tombera pas par terre. Abba Seba, le Dieu, ton Dieu t'honorera. Nous sommes la preuve qu'il n'est pas juste ton Dieu, mais qu'il est devenu le nôtre. Je prie que ton Dieu devienne le Dieu de tes enfants. Tu n'as pas dit amen parce que tu ne comprends pas. Je prie que ton Dieu ne soit pas juste ton Dieu, qu'il soit le Dieu de ta descendance, qu'il soit le Dieu de tes héritiers. qu'aucun de tes héritiers ne fasse entrer un feu étranger. Aïe, 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 aïe. Rapidement, la cinquième catégorie, ça va vous choquer, mais ce n'est pas grave. C'est le choix de ses ennemis. Il faut choisir ses adversaires. Et au sommet de la liste des adversaires, il y a le diable. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas l'avoir comme allié. Il faut déterminer que lui, c'est un ennemi. C'est ton adversaire. Parce qu'il est l'adversaire de nos âmes. Dieu a créé inimitié entre la semence de la femme et le serpent. C'est un combat que tu dois choisir. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, si lui, il est Satan, adversaire, il y en a d'autres que tu dois déterminer si ce sont tes adversaires ou pas. Et là, je veux vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un fait de vous son ennemi que vous devez faire de lui votre ennemi. Il y a des gens, il faut refuser de les avoir pour adversaires. Il faut vous éloigner d'eux pour qu'ils se battent contre le vent. Il faut vous éloigner d'eux pour qu'ils se battent contre le vent. Il y a des gens, ils ne méritent pas votre énergie. Ils ne méritent pas vos réponses. Ils ne méritent pas vos paroles. Ils ne méritent que votre dos. La Bible dit que Eliab dit à David, avec qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? David regarde Eliab et dit, est-ce que je n'ai pas le droit de m'enquérir de ce qui se passe? Et vos Bibles disent que David va faire quelque chose de très spirituel. David va lui tourner le dos. Ah! Et David va poser la question à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je dis, il y a des gens, tu leur as trop monté ton visage. Dans cette saison, montre-leur ton dos. Ah! Je ne sais pas à qui je le dis, mais je dis à quelqu'un ce matin, il y a trop de gens à qui tu as pris le temps de répondre, à qui tu as pris le temps de parler. Je dis, ce n'est plus le moment de leur parler. Ils perdent ton temps et ils perdent ton énergie. Je dis, montre-leur le dos. À chaque fois qu'ils parlent à ton dos, c'est que toi tu avances et qu'ils sont derrière toi. À chaque fois que tu leur tournes leur dos, tu leur montres le dos. C'est que tu annonces prophétiquement que vous n'êtes pas au même niveau et que vous n'avez pas la même destination. Que ils peuvent rester là à parler. Ils peuvent rester là à te critiquer. Ils peuvent rester là à dire du mal de toi. Mais en ce qui te concerne, ta mission est plus importante que ta réputation. Je prêche mieux que tu ne dis Amen ce matin. Je dis, je parle mieux que tu ne dis Amen ce matin. Il y a des gens, il ne faut pas les avoir pour adversaires. Il y a cette catégorie que vous, à qui vous devez tourner le dos. Mais il y a une autre catégorie avec laquelle vous devez rentrer en alliance. Jésus dit, quand un homme va faire la guerre, il dit avant de pouvoir aller faire la guerre, il compte, il vérifie qu'il est capable de se battre avec les gens qui arrivent. Et il dit, s'il n'est pas capable, il demande un traité pour parler. Est-ce qu'on peut ne pas arriver à se tuer? Parce que on va se battre. Peut-être vous allez gagner. Mais je vais faire des dégâts dans votre camp. Oh Dieu. Je vais garder mon message pour Libreville. Je dis, peut-être vous allez faire des dégâts. Peut-être vous allez me vaincre. Mais vous aurez quelque chose comme marque, comme preuve que je ne suis pas un chien errant. Même le chien mort. Et le chien, même si tu le tues, s'il t'a mordu avec la rage reste. Mieux, on ne se bat pas. faisons la paix. Tu dois savoir qui tu choisis comme adversaire. Il y a des combats qui n'en valent pas la peine. Pourquoi je vous parle des ennemis? Parce que la plupart d'entre nous, on n'en veut pas. Mais vos Bibles sont formelles. Il fait de tes ennemis ton marchepied. Écoutez-moi bien. À chaque fois que Dieu veut vous emmener plus haut, il vous crée de nouveaux adversaires. Quelqu'un a dit, mes anciens ennemis me respectent trop. Seigneur, donne-moi de nouveaux ennemis. Tu dois avoir des gens qui servent d'escalier. Est-ce que vous savez que c'est parce que quelqu'un vous a dit, tu n'y arriveras pas, que la rage a pris ton cœur et tu as dit, je n'avais pas prévu y arriver. Mais parce que toi, tu l'as dit, je vais te montrer que je suis capable de faire ce que tu dis que je ne suis pas capable de faire. Parce qu'elle, elle avait dit, pour qui te prends-tu? Est-ce que tu penses que tu n'avais même pas prévu ça? J'ai découvert que certaines déclarations de vos adversaires sont des prophéties. Que parfois, pour vous parler, Dieu n'utilise pas la bouche des anges. Il utilise la bouche de Satan. Il utilise la bouche de vos adversaires. Tu n'avais pas prévu être évêque. Mais quelqu'un a dit, mais il se prend pour qui? Il marche comme un évêque. C'est là que tu te rends compte que peut-être, Dieu m'appelle à être un évêque. Tu n'avais pas prévu être une femme d'affaires. Mais quelqu'un t'a dit, tu ne sers à rien. Je pense même que si tu étais dans tes propres affaires, tu échouerais. La rage a pris ton cœur. Et tu as dit que je vais lui montrer que je suis capable de réussir partout où je vais. Si tu es quelqu'un à côté de toi, dis-lui ne te laisse pas faire. Où sont les gens qui sont en vie pour montrer, pour démontrer que le Dieu qui les a appelés, celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde? Je dis, si tu es encore en vie, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Où sont les gens qui ont résisté aux critiques? Où sont les gens qui ont résisté aux murmures? Où sont les gens qui ont résisté aux abandons? Où sont les gens qui ont résisté aux trahisons? Que les survivants dans cette maison me donnent un cri de triomphe. Dis à ton voisin, tu es un survivant.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.